Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'écouter Radio Orient. Il est 17h, votre rendez-vous d'information avec Nawel El Amouchi. Au sommaire de ce point actualité, Israël interdit désormais à 14 ONG internationales d'accéder à Gaza. Plusieurs responsables humanitaires dénoncent une volonté de contrôle politique de leur action. Un responsable égyptien a confirmé un accord de 35 milliards de dollars pour importer du gaz naturel en provenance d'Israël, insistant sur le fait qu'il ne revêtait aucune dimension politique. Et plus de 7000 agriculteurs européens ont manifesté aujourd'hui à Bruxelles contre l'accord Union européenne-Mercosur, avec des tensions près du Parlement européen. Et on débute par l'actualité au Proche-Orient. Israël interdit désormais à 14 ONG internationales d'accéder à Gaza. Plusieurs responsables humanitaires dénoncent une volonté de contrôle politique de leur action. Cette décision intervient alors que l'aide qui entre dans l'enclave est largement insuffisante. Ces ONG disposent de 60 jours pour retirer tout leur personnel international de Gaza, de Cisjordanie occupée et d'Israël, et ne pourront plus acheminer aucune aide sur place. Les États-Unis ont annoncé des sanctions visant deux juges de la Cour pénale internationale qui ont enquêté sur Israël, dont le Premier ministre Benjamin Netanyahou, qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt émis par la Cour depuis novembre 2024. Un responsable égyptien a confirmé un accord de 35 milliards de dollars pour importer du gaz d'Israël, insistant sur le fait qu'il ne revêtait aucune dimension politique. Dans le reste de l'actualité, Emmanuel Macron a réaffirmé à Bruxelles que la France n'était pas prête à signer en l'état l'accord commercial entre l'Union européenne et le Mercosur lors du sommet de l'Union européenne, tandis que des milliers d'agriculteurs européens ont manifesté aujourd'hui à Bruxelles contre cet accord, avec des tensions près du Parlement européen. La manifestation, encadrée par un important dispositif policier, a rassemblé une cinquantaine de tracteurs et s'est déroulée globalement dans le calme, malgré des heurts ponctuelles. Et en France, des perquisitions ont été menées aujourd'hui au domicile de Rachida Dati, ainsi que la mairie du 7e arrondissement de Paris qu'elle dirige. Et on vient de l'apprendre, le ministère de la Culture a également été perquisitionné dans le cadre d'une enquête pour corruption. C'est la fin de votre rendez-vous d'information. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Place à présent au dossier du jour. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Orient, les dossiers du jour. Le Congrès américain donne son feu vert à la levée définitive des sanctions contre la Syrie. Sanctions imposées par les États-Unis contre Damas du temps de Bachar el-Assad. L'objectif, permettre le retour d'investissement dans ce pays ravagé par des années de guerre civile. Et on fait le point avec vous, François-Xavier de Calonne.
Oui, la loi dite César avait été adoptée en 2019. C'était lors du premier mandat de Donald Trump. Des sanctions qui bannissaient la Syrie du système bancaire international et des transactions financières en dollars. Le Sénat américain a donc dit oui, 77 voix pour, 20 contre. La Chambre des représentants s'était déjà prononcée la semaine dernière. Dernière étape à venir, la promulgation par Donald Trump. L'application de cette loi avait déjà été suspendue 2 fois pour 6 mois après l'annonce du président des États-Unis en mai dernier. Il avait levé les sanctions contre la Syrie dans le cadre de la normalisation des relations entre Damas et Washington.
Et après 13 ans de guerre civile, la Syrie cherche à garantir des fonds pour sa reconstruction, François-Xavier.
Et oui, le coût de cette reconstruction pourrait dépasser 216 milliards de dollars. C'est une estimation de la Banque mondiale. Mais si l'application des sanctions avait été suspendue, eh bien, de nombreux responsables américains estimaient que la loi César pouvait, malgré tout, une confiance des investisseurs, tant qu'elle n'était pas abrogée officiellement. Le chef de la diplomatie syrienne a salué sur Telegram le vote du Sénat, un vote qui, selon ses mots, ouvre de nouveaux horizons pour la coopération et le partenariat entre la Syrie et le reste du monde. Alors un élément à souligner, Nawel, parallèlement à la levée officielle de ces sanctions, Donald Trump a étendu mardi les interdictions d'entrée aux États-Unis aux ressortissants de 7 pays, et la Syrie fait partie de ces pays.
Merci beaucoup François-Xavier. Et notre second dossier du jour, c'est cette hausse des violences des forces israéliennes en Cisjordanie occupée et la croissance des colonies l'économie israélienne qui atteignent un niveau record. Des violences qui n'ont pas cessé malgré la trêve entrée en vigueur le 10 octobre à Gaza. Le plan de paix présenté par Donald Trump il y a 2 mois en Égypte a d'ailleurs fait l'impasse sur la Cisjordanie. Notre invité Jean-Paul Chagnolo, professeur émérite des universités et président d'honneur de l'Institut de recherche et d'études méditerranée Moyen-Orient, revient sur ce sujet.
Je crois que cette absence de mention de la Cisjordanie est extrêmement claire. Ça veut dire qu'il n'est pas question d'aller vers une perspective politique qui consisterait à penser un État palestinien à côté de l'État d'Israël. C'est très clair. Donc, ce plan Trump est en fait un plan qui consiste à... C'est déjà beaucoup pour les Gazaouis, un cessez-le-feu. Et on voit bien encore qu'il est très, très violé, enfin, régulièrement. Mais surtout, au-delà, il n'y a pas de perspective. Et c'est ça le drame. Et je pense même que c'est la volonté à la fois des États-Unis et puis du gouvernement Netanyahou de faire en sorte qu'il n'y ait pas justement de perspective politique.
Et pourtant, cette absence de mention de la Cisjordanie a été relativement peu mise en lumière.
Bah écoutez, elle a été mise en lumière par d'autres acteurs, dont la France d'ailleurs, ou certains pays arabes, parce que c'est contraire à ce qu'on a tendance à maintenant oublier, la déclaration de New York, c'est-à-dire une déclaration à l'initiative de la France et de l'Arabie Saoudite, qui a été adoptée aux Nations Unies au mois de septembre dernier, il y a quelques semaines, et qui, au contraire, accueilli à l'Assemblée Générale avec 142 États pour, et qui disait justement qu'il fallait une perspective politique et par conséquent qu'il fallait évidemment entreprendre un processus qui inclut la Cisjordanie et Gaza, et avec la vérité, revenir sur les bases du droit international. On est évidemment à l'inverse de tout ça avec le processus enclenché par Trump. Il faudra bien voir qu'il y a deux textes qui s'opposent, deux initiatives qui s'opposent, celle de New York qui a une perspective politique fondée sur le droit international, et celle de Trump qui est en fait extraordinairement axée sur, au fond, les intérêts d'Israël, et donc il n'est pas question d'intégrer la question de la Cisjordanie. Et donc la conséquence de tout cela, c'est évidemment que la Cisjordanie va être, je dirais, annexée de facto. Vous avez vous-même évoqué à juste titre l'intensité de la colonisation qui a lieu en ce moment et les violences qui l'accompagnent comme jamais depuis très longtemps.
Et vous avez rappeler le fait que des pays ont mentionné cette absence, c'est un fait, mais ce plan dit de paix a été applaudi en quelque sorte par la communauté internationale, même si ce terme est parfois galvaudé.
Vous savez, c'est tout le problème de la notion de paix. Qu'est-ce que ça veut dire, la paix ? La paix, c'est quand, au fond, les différents acteurs trouvent leurs intérêts, où il y a une paix équilibrée, une paix de compromis. De même, il faudrait dire un compromis historique, c'est-à-dire que les Israéliens, elles, y trouvent leur intérêt, notamment leur sécurité, mais que les Palestiniens y trouvent leur intérêt, c'est-à-dire un État. On est à milieu de tout ça, n'est-ce pas ? Donc la paix dont il est question, c'est une paix qui ressemble davantage à un cessez-le-feu qui permet ensuite, et je répète, c'est beaucoup pour les Gazaouis, mais ensuite, on parle de reconstruction et dans des conditions qui ne sont absolument pas maîtrisées par les Palestiniens. Il faut rappeler que dans le plan Trump, qui a d'ailleurs été effectivement validé parce qu'au fond les autres États n'ont guère le choix, validé par le Conseil de sécurité dans une résolution récente, on ne parle pas du tout de perspective politique, et en fait on parle d'une reconstruction qui pour l'instant évidemment n'est qu'un projet, mais surtout on a déjà divisé Gaza en deux parties et on parle de reconstruction uniquement dans la zone occupée par Israël. Il faut rappeler qu'en ce qui concerne Gaza, les 2 millions d'habitants, un peu plus de 2 millions, se retrouvent maintenant dans la moitié du territoire de Gaza, qui est déjà un territoire extrêmement, extrêmement restreint, extrêmement réduit. Donc on est vraiment dans quelque chose qui est le contraire d'une paix, car au compte, ça va générer des violences, des frustrations, enfin bref. On s'engage dans quelque chose qu'on appelle la paix, mais qui n'en est en aucune façon, même pas le reflet.
C'était Jean-Paul Chagnolo, professeur émérite des universités et président d'honneur de l'Institut de recherche et d'études méditerranée Moyen-Orient, au micro de François-Xavier de Calonne. C'était les dossiers du jour. Merci beaucoup, chers auditeurs, de nous suivre. Et je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Radio-Orient.